Salut à toutes et à tous, c'est Carrefour du Monde, l'émission de l'actualité internationale vue de manière décalée. Vous écoutez Carrefour du Monde à Montréal le dimanche à 9h sur CISM 89.3 FM, à Bruxelles le mardi à 13h30 sur Radio Campus 107.2 FM et à Mons le mercredi à 10h et le samedi à 12h sur RLJ 99.9 FM, sans oublier notre site internet carrefourdumonde.org. Dans cette nouvelle édition régime été de Carrefour du Monde, nous allons revenir sur le mini-sommet de l'OMC qui s'est déroulé à Montréal les 28, 29 et 30 juillet dernier. Une réunion qui a surtout été marquée par une forte répression policière face aux opposants du diktat de l'OMC. Dans la partie magazine, nous ferons un premier bilan du gouvernement Lula au Brésil. Depuis le 1er janvier 2003, Luiz Inácio Lula da Silva est à la présidence de ce pays de 170 millions d'habitants. C'est la première fois qu'un dirigeant de gauche est au pouvoir au Brésil, ce qui avait suscité à l'époque, on se souvient, énormément d'espoir. Néanmoins, 6 mois après son investiture, les espoirs se sont estompés, constatant que Lula se laisse glisser vers des politiques très libérales. Nous ferons le point avec l'économiste Raul Machado, ancien membre du Parti des Travailleurs, et Eric Toussaint du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Cette spéciale Brésil a été réalisée en compagnie de RISAL, le réseau d'information et de solidarité avec l'Amérique latine. Mais démarrons cette nouvelle édition de Carrefour du Monde avec la mini-ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est déroulée fin juillet à Montréal. Une rencontre qui avait été décidée par Pierre Pettigrew, le ministre canadien du commerce international. Il s'agit d'une réunion préparatoire au sommet de l'OMC qui doit se dérouler en septembre prochain à Cancun au Mexique. 25 ministres étaient réunis à l'hôtel Sheraton de Montréal pour discuter de certains problèmes épineux tels que l'agriculture ou les médicaments génériques. Pour le ministre canadien du commerce international, l'objectif de cette rencontre était d'avancer sur ces dossiers sensibles afin de réformer les règles du commerce mondial avant la date butoir du 1er janvier 2005. En réalité, rien n'a avancé lors de cette rencontre de Montréal. Les États-Unis refusant toute discussion sur les médicaments génériques pour protéger son industrie pharmaceutique. Quant à l'agriculture, l'OMC veut diminuer les barrières tarifaires de 60% d'ici 5 ans, ce qui risque d'accélérer encore l'agriculture productiviste aux dépens de la santé publique et de l'environnement. Ce qui risque également d'inonder les marchés mondiaux d'OGM en provenance des États-Unis. C'est pour dénoncer l'arrogance des États-Unis partis en guerre contre la biosécurité que Greenpeace a organisé de nombreuses actions lors de ce mini-sommet. Écoutez justement le témoignage de Sébastien Rissot de Greenpeace.
L'objectif de Greenpeace est de rappeler avant toute chose qu'il faut préserver et protéger le droit à la santé publique, le droit des consommateurs et le droit environnemental avant toute chose, qui doit garder la primauté sur le droit commercial et sur les intérêts à court terme et les intérêts mercantiles des compagnies transnationales. Il y a un protocole de biosécurité qui a été ratifié aujourd'hui par 53 États, qui va entrer en vigueur le 11 septembre cette année. Et il y a très clairement une attaque délibérée sur la biosécurité et sur ce protocole de la part de l'administration américaine soutenue par l'administration canadienne, avec une volonté, c'est de forcer le consommateur américain, canadien et plus largement les consommateurs du monde entier à consommer des OGM sans leur consentement et sans être informé. Et naturellement, ça va à l'encontre des principes et des idées défendues par Greenpeace qui considèrent que justement le droit des citoyens doit primer sur le droit des compagnies transnationales et sur le profit immédiat et sur les intérêts à court terme.
Justement, on parle d'intérêt à court terme, on ne sait pas encore trop quelles seront les conséquences des OGM, que ce soit sur la santé humaine ou sur le plan environnemental.
Il y a un débat justement scientifique là-dessus, sur le risque pour les consommateurs, sur le risque pour l'environnement, et c'est justement tout l'intérêt du principe de précaution qui a été défini dans le protocole de biosécurité. C'est de permettre justement à ce que le consommateur puisse faire son choix et puisse justement défendre sa santé avant toute chose et faire en sorte justement que ces produits ne soient pas mis sur le marché avant qu'ils puissent être testés et avant qu'on ait pu contrôler leur impact et leurs effets sur la santé humaine et sur l'environnement. C'est tout l'intérêt du principe de précaution qui est employé ici sur les questions de biosécurité, mais qui est employé également dans tout autre domaine et qui là encore fait primer le droit à la santé, le droit à l'environnement avant toute chose, ce qui nous paraît être de bon sens. Mais malheureusement, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les intérêts de certaines compagnies transnationales et certains égoïsmes nationaux, politiques nationaux, ont tendance justement à mettre de côté ces aspects qui sont essentielles pour l'ensemble des citoyens du monde aujourd'hui.
Oui, alors en plus actuellement il y a un débat donc au sein de l'Union européenne qui a levé son moratoire sur les OGM. Pour certains États, que ce soit le Canada, les États-Unis ou l'Argentine, ce n'est pas encore assez. Eux considérant qu'il ne faut pas étiqueter les produits OGM et qu'il faut quasiment les laisser ouverts, donc laisser le marché européen ouvert à ça.
L'Union européenne avait mis en place un moratoire qui était temporaire et qui était compatible justement avec les principes du protocole de biosécurité. Et elle a pris le temps en fait de mettre en place une nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur cette année au mois d'octobre et qui vise à assurer une traçabilité et un étiquetage des OGM pour que les consommateurs puissent avoir le choix d'une consommation avec ou sans OGM. Et en fait, c'est cette traçabilité, cet étiquetage qui est dans la cible de l'administration américaine et de l'administration canadienne et qui veulent empêcher les consommateurs de faire le choix d'une alimentation sans OGM parce qu'ils savent qu'une très large majorité des consommateurs ne veulent pas prendre de risques. Et c'est évident que ça risque d'affecter les profits des entreprises transnationales et qui préfèrent en fait avoir des consommateurs non informés qui consommeront des produits avec OGM et tout ça pour accroître encore les profits de compagnies telles que Monsanto qui délibérément essayent justement d'aller à l'encontre du droit des consommateurs et du droit international.
C'était Sébastien Risseau de Greenpeace. Concernant toujours ce mini-sommet de l'OMC à Montréal, Pierre Pétigroux, le ministre du Commerce international, s'était distingué dans la presse canadienne en déclarant que les antimondialistes n'existaient plus. Pour Pétigroux, être contre la mondialisation, c'est être dépassé. Le mépris de Pétigroux n'a pas empêché les opposants à la mondialisation d'afficher leur mécontentement face aux politiques ultralibérales en rappelant le côté antidémocratique de l'OMC. La rencontre de Montréal a connu une grande mobilisation populaire contre l'OMC. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Montréal, ce qui représente un énorme camouflet pour Pétigroux. Malheureusement, ces manifestations ont subi une forte répression policière avec plus de 350 arrestations, des arrestations souvent arbitraires. On a même vu des journalistes et des médecins du Medical Team se faire arrêter. Du coup, une enquête devrait être lancée sur les nombreuses bavures de la police de Montréal. Au Brésil, on se souvient de l'espoir qu'avait suscité la victoire électorale de Luiz Inácio Lula da Silva en octobre 2002. Cet ancien dirigeant syndical est le premier homme de gauche à la présidence de ce pays. Lula a pris ses fonctions le 1er janvier dernier et déjà les espoirs de nombreux Brésiliens se sont estompés, constatant que la politique économique du gouvernement est restée très néolibérale. Raul Machado est économiste et professeur à l'Université catholique de Sao Paulo. Il est un ancien membre de la direction du Parti des travailleurs. Il dresse un premier bilan du gouvernement Lula au micro de Frédéric Lévesque de Rizal.
Les gens qui ont voté pour Lula, ça c'est absolument clair, espéraient un changement. Avec la campagne, espéraient un changement pas radical, mais sûrement un changement, une réorientation des politiques vers plus de croissance, plus de création d'emplois, moins concentration de revenus, surtout ces questions-là, non? Au premier mois, il faut dire que Lula n'a pas correspondu, même pas, à l'orientation de gauche modérée qu'il a présentée dans la campagne, non? Le cadre d'ensemble n'est pas très simple, c'est un cadre assez complexe et contradictoire, mais quand même, un fait très important, c'est que Lula a, pour le moment, maintenu les lignes générales de la politique économique de Fernando Henrique Cardoso, y compris dans ses aspects plus libéraux. Il a nommé comme président de la Banque centrale un banquier, un Brésilien qui avait été président international de la Banque de Boston, une banque nord-américaine. La politique monétaire, c'est une politique orthodoxe, comme avant, avec des taux d'intérêt très élevés. Le ministère des Finances a défini une politique budgétaire très dure, plus dure même que celle de Fernando Henrique Cardoso. Bon, donc, une politique très conservatrice sur le plan macroéconomique. Dans d'autres questions, la politique est plus progressiste, non? Par exemple, le ministère des Relations étrangères a une politique beaucoup plus progressiste. La question clé, c'est la question des négociations pour l'ère de libre-échange des Amériques, c'est-à-dire ALCA. Le gouvernement n'a pas fait ce qui était la position ancienne, traditionnelle, disons, du PT, qui était quitter ces négociations. Sur le plan de la réforme agraire aussi, Lula a une politique beaucoup plus progressiste. Les ministres du développement agraire, d'ailleurs, c'est le ministère responsable pour la réforme agraire, et un ministre nettement de gauche, de la gauche plus radicale, du PT, disons, qui travaille en accord avec le mouvement de paysans sans terre. Donc, il y a une collaboration étroite entre le mouvement des paysans sans terre et d'autres mouvements de paysans. Le mouvement des paysans sans terre n'est pas le seul mouvement qui s'occupe de la réforme agraire au Brésil, qui mobilise pour la réforme agraire au Brésil. Il y a d'autres aussi. Et tous ces mouvements travaillent d'une façon très étroite avec le ministère et on a des avancées. C'est vrai que beaucoup plus lentement qu'on ne l'espérait. Surtout parce que, avec la réduction des ressources due à la politique budgétaire très austère, il n'y a pas beaucoup de ressources pour faire les désappropriations, le soutien technique, financier aux nouveaux propriétaires de terres paysans, non? Donc, disons, le cadre est meilleur, mais quand même, la réforme agraire évolue plus lentement que l'on ne voudrait.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, par exemple, le cadre de la politique donc reste assez néolibéral, mais qu'il y a certaines mesures sociales ou certains progrès de certains côtés, mais qu'il n'y ait pas vraiment de changement?
Pour le moment, c'est ça. Il n'y a pas un changement sur le plan social d'ensemble, non? Les initiatives qu'on a déjà adoptées, le gouvernement a déjà adopté, sont limitées. Bon, il y a la réforme agraire, c'est très important, mais pour un secteur. Et en plus, le Brésil est un pays très majoritairement urbain, non? Le programme plus important du gouvernement sur le plan social est le programme appelé Fin Zéro. L'idée centrale, c'est de faire des distributions des aliments pour en finir avec la faim. Bon, ce programme avance très, très, très lentement. Il y a des problèmes d'organisation pour les distributions des aliments, mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas de ressources non plus, non? Donc, sur le plan général, la situation sociale n'a pas amélioré parce que le chômage continue à monter. Avec la politique macroéconomique du gouvernement, l'économie est stagnée, donc il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, le chômage croît, le revenu des travailleurs, des salariés en général, baisse. Lula est dans le cinquième mois de gouvernement. Dans les quatre premiers, à chaque mois, par exemple, le chômage a augmenté. Un petit plus. le taux officiel un peu au-dessus de 12%.
Est-ce que ça ne bouge pas un peu du côté des mouvements sociaux, mouvements paysans? Comment va réagir le mouvement social?
Bon, le mouvement paysan est très mobilisé. Depuis le premier jour du gouvernement fait des occupations de terres, le mouvement des paysans sans terre a dit que très bien, il était pour le gouvernement, mais il ne donnerait pas une trêve parce qu'il croyait qu'il fallait quand même pousser le gouvernement. Par contre, le mouvement urbain est dans une situation beaucoup plus difficile, non? Surtout le mouvement syndical. Il y a une autre chose que je n'avais pas parlé. Il y a maintenant la discussion d'un projet de réforme de la sécurité sociale qui n'est pas du tout bon. Au contraire, c'est un projet qui, en général, on peut dire qu'il va dans le sens libéral. Le mouvement syndical est très massivement contre cette proposition, mais ne se mobilise pas parce que c'est très difficile par le mouvement syndical surtout, que pendant plus de 20 ans a eu Lula comme son dirigeant le plus important, faire une mobilisation contre une proposition du gouvernement de Lula, qui d'ailleurs est soutenue par Lula d'une façon très ferme, très agressive et tout ça. Il y a encore une très large popularité de Lula, mais quand même elle a baissé déjà un peu. Les derniers sondages sont même assez curieuses, disons, non? Dans l'ensemble de la population, Lula maintient un soutien très fort, plus de 50% soutiennent d'une façon ferme le gouvernement. C'est déjà moins parce qu'au début, c'était plus de 70%. Mais maintenant, le curieux, c'est que le secteur de la population qui a le soutien plus fort au gouvernement Lula, c'est le secteur des entrepreneurs, non? Des chefs d'entreprise. Là, le soutien est à peu près de 80%. Donc, ça montre un peu quelle est l'image du gouvernement Lula, non? Maintenant, c'est un gouvernement vraiment très soutenu pour les classes, disons, aisées, très soutenu par le Fonds monétaire international, par exemple, qui présente même Lula comme un exemple d'un homme d'État pour le 21e siècle, et encore soutenu aussi par la majorité de la population, mais quand même qui est un peu confuse, un peu perplexe. Pour le moment, la plupart des gens pensent qu'il faut donner du temps à Lula pour commencer le vrai changement, mais on ne sait pas combien de temps cela va durer.
Exclure des députés PT qui refusent de voter des réformes du gouvernement Lula, donc des députés du même parti qui risquent d'être exclus.
Pour le moment, il n'y a pas eu de votation sur ce sujet-là, parce que le thème de polémique, c'est surtout la réforme de la Providence. Il n'y a pas eu de votation. Mais ce sont des députés et une sénatrice qui avaient déclaré qu'ils ne voteraient pas la proposition de réforme telle qu'elle est. Et ils avançaient même comme argument qu'ils maintenaient les positions du PT jusqu'à un an, c'est-à-dire jusqu'à l'an dernier, parce que même dans la campagne, le PT ne soutenait pas ce genre de propositions. Ils ont avancé l'argument qu'ils avaient les positions que Lula avait eues pendant presque toute sa vie, non? Et le PT en général. Et c'est vraiment une chose très pitoyable, je crois, qu'il y ait le risque d'être exclu du PT pour maintenir la défense des positions que le PT a défendues toujours, même dans la campagne électorale, plus modérée que Lula a fait en 2002. Non? Un autre sujet de conflit qui a amené à une menace d'exclusion, il y a une camarade, la sénatrice Héloïse Eliane, qui s'est refusée à voter pour la nomination de Meirel, c'est-à-dire l'ex-président international de la Banque de Boston, pour président de la Banque centrale au Brésil. Elle avançait un argument que je crois tout à fait respectable, que quand l'ancien président de la Banque centrale avait été proposé par le gouvernement Fernando Henrique Cardoso, c'était un type issu de milieux financiers. Il travaillait avec George Soros. C'était un Brésilien aussi, mais il travaillait avec George Soros. Le PT s'est refusé à voter en disant qu'il ne pouvait pas approuver pour la Banque centrale brésilienne quelqu'un lié au milieu financier. Et c'est tous des milieux financiers internationaux. Meirelles a le même profil, donc c'est pas différent de l'intérieur. Donc ce qu'elle faisait, c'était justement maintenir la position traditionnelle du PT. Non, elle a été presque sanctionnée pour se refuser à participer à la votation. Après, on a fait un accord. Elle n'a pas s'est présentée au moment de la votation, donc elle n'a pas voté contre, n'a pas voté en faveur non plus. Non. Et on a accepté ça, disons, la majorité du parti.
Il y a quelques mois, on parlait justement, il y avait déjà le processus bolivarien, Chavez, avec Chavez au Venezuela. Puis Lula s'est fait élire, Gutiérrez. On parlait déjà pour les États-Unis d'un axe du mal, avec Castro. On parlait vraiment d'un changement en Amérique latine, et pourtant on voit en Équateur, les mouvements sociaux sont occupés à rompre avec Gutiérrez. Le bilan ou la voie que Lula est en train de suivre ne semble pas être très alternative, on va dire. Est-ce que finalement, l'espoir qui s'est développé il y a quelques mois en Amérique latine n'est déjà pas occupé à tomber, je veux dire?
C'est peut-être encore tôt pour faire un bilan définitif de ce que va être le gouvernement Lula, non? Parce que bon, nous pouvons garder une expérience qu'il y a encore des changements. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est évident que ni Bush ni personne ne va dire maintenant que Lula est dans l'axe du mal, dans un sens de contraire aux intérêts des États-Unis. Non. Au contraire, le Fonds monétaire présente Lula comme un exemple pour les autres. Dans les réunions de G7, Lula a reçu des éloges très importants. Il y a des problèmes entre les États-Unis et le gouvernement Lula, par exemple, par rapport aux négociations de l'ALCA. Comme j'avais dit, dans la politique internationale, Lula a en général une position assez progressiste, sauf dans les rapports avec le Fonds monétaire, qu'on doit dire que ça fait partie aussi de, disons, de la politique internationale, non? Mais de toute façon, l'image que Lula est très différente de celle qu'il avait avant les élections.
C'était Raul Machado, professeur à l'Université catholique de Sao Paulo et ancien membre du Parti des travailleurs. Lors du sommet du G8 à Évian en France début juin, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a rencontré une délégation de représentants des mouvements sociaux et de différentes ONG. Frédéric Lévesque a recueilli le témoignage d'Éric Toussaint, le président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Voici le témoignage d'Éric Toussaint sur sa rencontre avec le président brésilien Lula lors du sommet du G8 à Évian.
Nous nous trouvons dans une situation où, quelques mois à peine après avoir occupé son poste de président, la politique qu'il mène est manifestement contradictoire avec les attentes de toute une série de mouvements sociaux avec lesquels nous travaillons directement. Bon, alors, c'est quoi les mesures tout à fait contestables? Un, le président Lula a désigné comme président de la Banque centrale un des gros patrons, l'ancien président d'une des grosses banques américaines présentes au Brésil, la Fleet Boston. Donc c'est clairement un représentant de la classe capitaliste qui est mis à la tête de la Banque centrale. Et le message est clair, c'est chercher à donner confiance au marché financier. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, le président Lula est favorable à octroyer l'autonomie à la Banque centrale. Troisième point contestable dans la politique de Lula, c'est la réforme du système de pension qu'il a entrepris. En fait, le président Lula s'en prend au système de pension des travailleurs du secteur public et veut favoriser à fond les fonds de pension privés.
Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment a eu lieu cette visite?
Étant donné cette politique, on y allait quasiment avec des semelles de plomb. On a été reçu par le président Lula, le ministre qui était accompagné du ministre du Travail et du ministre des Relations Extérieures. Lula a présenté pendant une demi-heure la politique de son gouvernement en défendant les mesures d'austérité qu'il a prises et en disant que c'était nécessaire à stabiliser une situation économique très difficile et ça prendrait quelques années, le fait de concrétiser les engagements qu'il a pris auprès de du peuple au cours de sa campagne électorale. L'espoir énorme que non seulement une grande partie des Brésiliens ont, mais bien au-delà, dans le reste de l'Amérique latine et dans le monde, de voir un gouvernement progressiste appliquer une orientation qui tourne le dos au néolibéralisme, eh bien cet espoir manifestement est en train d'être fortement déçu, et autant le dire clairement dès le début, ou sinon plus dure sera la chute, quoi, si on se berce d'illusions sur l'orientation réelle du gouvernement Lula. Quelque part, ce qui ressort de la situation des derniers mois en Amérique latine, c'est que alors que, de manière très claire, dans plusieurs pays, les gens ont voté sur des programmes de gauche, ils se sont empressés de faire des concessions aux marchés financiers et de réaliser la continuité du programme néolibéral des prédécesseurs qu'ils condamnaient dans leur campagne électorale. Donc ça montre que là, un enjeu important pour les mouvements sociaux, c'est de maintenir leur indépendance par rapport au gouvernement. C'est pas parce que des partis qui en principe devraient représenter le programme des mouvements sociaux arrivent au pouvoir que les mouvements sociaux doivent mettre de l'eau dans leur vin et abandonner de leur radicalité et passer à l'attentisme en se disant on va pas mettre des bâtons dans les roues de nos amis politiques au gouvernement. Au contraire, il faut augmenter la pression sur de tels gouvernements pour qu'ils adoptent un comportement conforme à ce qu'ils ont annoncé et qui leur a permis de recevoir les suffrages populaires.
C'est ainsi que cette édition spéciale Brésil de Carrefour du Monde se referme. Merci à la précieuse collaboration de Frédéric Lévesque du réseau d'information et de solidarité avec l'Amérique latine. Vous trouverez plus d'informations sur le site de Rizal, rizal.collectif.net. Merci également à Clarisse Serigna à la réalisation et à la coordination à Montréal. Je vous donne rendez-vous le dimanche à 9h à Montréal sur CISM 89.3 FM, le mardi à 13h30 sur Radio Campus Bruxelles 107.2 FM et le mercredi à 10h et le samedi à 12h à Mons sur RLJ 99.9 FM. N'oubliez pas également que vous pouvez trouver un max d'infos et toutes nos archives sur le site carrefourdumonde.org. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Ciao.